Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 6 juin 2022. Voici les titres. Au Nigeria, plus de 20 morts et 40 blessés lors d'une attaque à main armée dans une église de l'état de Ondo. En République démocratique du Congo, au moins 20 civils ont été tués la nuit dernière en Ituri par des rebelles ADF. Deux militaires ont été tués dans d'autres combats avec le M23 dans le nord Kivu. En Tunisie, grève des magistrats qui protestent contre la révocation de plusieurs juges par le président Kais Saied. Ouverture du sommet des Amériques à Los Angeles, boycotté par le président mexicain qui dénonce l'exclusion du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Et après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Au Nigeria, l'attaque par des hommes armés hier d'une église catholique durant la messe a fait au moins 21 morts et plus de 40 blessés, dont des enfants. Claire Moragibour nous en dit plus.
L'attaque s'est produite pendant la célébration de la Pentecôte à l'église catholique Saint-Francis de la ville d'Owo, dans l'état d'Ondo. De la dynamite a explosé dans l'église. Les assaillants ont tiré à travers les fenêtres, a déclaré à l'AFP Richard Olatunde, le porte-parole du gouverneur de l'État qui a confirmé le bilan. Une quarantaine de blessés sont actuellement soignés dans différents centres médicaux de la ville. Cette attaque, dénoncée comme un meurtre odieux de fidèles par le président Muhammadu Buhari, n'a pas été revendiquée. Les forces de sécurité sont mobilisées pour retrouver les assaillants. Hier, le pape François a dit « prier pour les victimes et pour le pays douloureusement affecté ». Les attaques contre les sites religieux sont particulièrement sensibles au Nigeria, où les tensions s'exacerbent souvent entre les communautés d'un pays dont le sud est majoritairement chrétien et le nord majoritairement musulman. Ce type d'attaque est toutefois rare dans le sud-ouest, habituellement plus paisible.
En Guinée, le procureur général Alphonse Wright a ordonné au ministère de la Sécurité de lui communiquer les noms des policiers qui étaient sur le terrain le jour où un jeune a été tué en marge de manifestation contre l'augmentation des prix des carburants. Thierno Mamadou Diallo a été tué par balle le 1er juin lors de heurts entre les forces de sécurité et des manifestants. Le procureur a ouvert une enquête préliminaire pour homicide volontaire et a publié les résultats de l'autopsie. Il a de nouveau prévenu que les autorités séviraient en cas de tentative de récupération de l'affaire. En République démocratique du Congo, au moins 20 civils ont été tués la nuit dernière dans la province de l'Ituri, dans le nord-est du pays. Ce nouveau massacre est attribué aux rebelles ADF. Le point avec Nani Talani.
Au moins 20 civils ont été tués au village Bwanasura, dans le territoire d'Irumu, en Ituri ce dimanche, écrit sur Twitter le baromètre sécuritaire du Kivu, précisant que les ADF sont soupçonnés. Des volontaires de la Croix-Rouge disent pour leur part avoir compté 36 corps. Ils expliquent que ces rebelles ADF sont arrivés vers 20h locales et ont opéré calmement, ajoutant que de nombreux habitants ont pu s'échapper. Des témoins affirment que les assaillants ont aussi incendié des maisons dans un autre village de Tomabéré. Le porte-parole de l'armée congolaise, Jules Ngongo, confirme l'attaque des ADF sans annoncer de bilan, précisant que les forces congolaises poursuivent les assaillants. L'intervention de l'armée s'est produite en retard. Je suis en colère, a réagi de son côté Dieudonné Malangaï, membre de la société civile de la chefferie où se trouve le village attaqué.
Par ailleurs, deux militaires ont été tués et 5 autres blessés aujourd'hui dans des combats avec le M23 dans le nord Kivu, a indiqué l'armée. Les obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position phare d'essai de Bukusa dans le territoire de Rutshuru à la frontière avec le Rwanda, écrit l'armée dans un communiqué. Au Tchad, 6 responsables de l'opposition poursuivis pour trouble à l'ordre public après une manifestation contre la France émaillée d'incidents ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et à 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État tchadien, indiqué le procureur de la République Moussaoua Djibrine. Le procès s'est ouvert ce matin à Moussoro. 12 policiers avaient été blessés et cette station totale vandalisée le 14 mai lors de cette marche de protestation contre la France accusée de soutenir les militaires au pouvoir. En Tunisie, les magistrats ont entamé ce lundi une grève d'une semaine. Ils protestent contre la révocation de 57 de leurs confrères par le président Kais Saied. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La grève a commencé dans tous les tribunaux du pays et selon nos informations, elle est très suivie, a déclaré Mourad Massoudi, président de l'Association tunisienne des jeunes magistrats. Jeudi dernier, le président Kais Saied a limogé 57 juges accusés notamment de corruption. Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d'avoir entravé l'enquête sur les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, imputés à des djihadistes. Les syndicats des magistrats dénoncent une ingérence permanente du président dans le pouvoir judiciaire. Ils l'accusent de s'octroyer le pouvoir de les révoquer sans le moindre recours possible. Grâce à une révision de la loi régissant le Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État peut désormais révoquer les juges invoquant une atteinte à la sécurité publique ou à l'intérêt suprême du pays. Depuis le 25 juillet 2021, le président Kais Saied concentre tous les pouvoirs et dirige la Tunisie par des décrets-lois. Ses opposants qualifient cela de coup d'État. Pour sortir de l'impasse, il a proposé une feuille de route prévoyant un référendum sur la Constitution le 25 juillet et des législatives anticipées le 17 décembre.
En Algérie, Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans plusieurs affaires, a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison ferme pour des faits de corruption selon les médias du pays. Son co-accusé, l'homme d'affaires Ali Haddad, également condamné dans plusieurs affaires, a écopé de 4 ans de prison ferme. Les deux hommes doivent aussi verser des amendes au trésor public. Selon des archives déclassifiées publiées ce lundi, le massacre le 17 octobre 1961 à Paris de dizaines d'Algériens avait été rapporté au président Charles de Gaulle, qui a pourtant maintenu dans ses fonctions le préfet Maurice Papon et les ministres responsables. Ce jour-là, 30 000 Algériens avaient manifesté à l'appel du FLN contre le couvre-feu. La présidence française a reconnu pour la première fois l'an dernier que près de 12 000 Algériens furent arrêtés, transférés dans des centres de tri au stade de Coubertin, au palais des sports et dans d'autres lieux. Certains furent tués et leurs corps jetés dans la Seine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Sud et les États-Unis ont tiré 8 missiles balistiques ce lundi. L'armée sud-coréenne a indiqué que c'est en réponse au lancement d'un même nombre de missiles par la Corée du Nord hier. Eric Manirakiza.
Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique a indiqué qu'un missile de l'armée américaine et 7 missiles sud-coréens ont été tirés depuis le nord-est de la Corée du Sud. C'était au cours de l'exercice de tir réel de lundi qui démontrent leur capacité à réagir rapidement à des situations de crise. Les chefs d'état-major interarmés ont fait savoir que les alliés ont visé des cibles situées dans la mer de l'Est, également appelée « mer du Japon », lundi à l'aube. Cette salve de 10 minutes intervient au lendemain du lancement par Pyongyang de 8 missiles balistiques à courte portée. Des responsables et des analystes ont averti que le régime de Kim Jong-un se préparait à effectuer un nouvel essai nucléaire. Le mois dernier, Séoul et Washington ont procédé à des lancements combinés, leur première action conjointe de ce type depuis 2017, après le tir par Pyongyang de 3 missiles balistiques, dont un présumé à portée intercontinentale.
Le ministère américain de la Justice a ordonné ce lundi la saisie de 2 avions de l'oligarque russe Roman Abramovich, affirmant qu'ils ont été utilisés en violation des sanctions prises contre Moscou. De son côté, la diplomatie russe a allongé sa liste des citoyens américains interdits d'entrer en Russie, incluant la secrétaire au Trésor Janet Yellen, la ministre de l'Énergie Jennifer Granholm et les PDG de l'opérateur opérateur de satellite OneWeb et de l'agence de notation Fitch. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé qu'il ne participera pas au sommet des Amériques qui a débuté ce lundi à Los Angeles parce que les États-Unis ont exclu de cette rencontre le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, qui a dénoncé son exclusion. À l'occasion du sommet, le président Joe Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur l'immigration. Des milliers de migrants sont partis à pied du Mexique ce lundi pour se rendre aux États-Unis. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco. Présenté par Rosine Munezero.
Le Nigeria a renoncé à l'émission d'un eurobond d'un montant de 950 millions de dollars qui était destiné à financer le déficit budgétaire du pays en raison de conditions de marché défavorables. Le ministère nigérian des Finances a précisé que le pays prévoit de réduire ses coûts d'emprunt cette année en utilisant son droit de tirage convertible en devise auprès du FMI pour financer une partie de ses dépenses budgétaires. Spark Plus Africa Fund, un fonds d'impact qui, en décembre 2020, a reçu un apport de 5 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement, annonce avoir investi 4 millions de dollars au profit de Burn, une entreprise industrielle implantée au Kenya, apporte l'agence Ecofin. Cette entreprise, qui produit des fours de cuisson peu polluants, indique que cet investissement lui permettra d'augmenter sa capacité de production industrielle à Nairobi et de financer l'expansion de ses activités sur de nouveaux marchés. Washington a annoncé lundi suspendre des droits de douane pour une durée de 2 ans sur certaines pièces de panneaux solaires importées de 4 pays d'Asie, mais pas de Chine, afin de permettre aux fabricants américains d'accroître leur production. Les pièces seront importées du Cambodge, de Malaisie, de Thaïlande et du Vietnam. L'administration de Joe Biden veut faire croître la production d'énergie solaire dans le pays.
À présent, le sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Du football à la une avec les matchs qualificatifs de la CAN 2023.
Oui, une seule rencontre au programme ce lundi. Guinée équatoriale Libye, démarrée mercredi dernier. La première journée s'est poursuivie ce week-end avec un début réussi pour le Sénégal vainqueur 3-1 du Bénin grâce à un triplé de Sadio Mané qui devient le meilleur buteur de la sélection sénégalaise avec 32 réalisations. L'attaquant de Liverpool est heureux de dépasser d'une unité le précédent record détenu par Henri Camara.
On a fait un bon match et pour moi le plus important c'est de gagner. Le match on l'a fait avec la manière, tant mieux, donc je suis tellement content et fier d'être le meilleur buteur parce que c'est pas évident. Harry, vous savez, il était mon idole, ça nous a rendu fiers, il a beaucoup fait pour le Sénégal.
Sadio Mané, attaquant du Sénégal. Début parfait aussi du Mali qui a étrié le Congo-Brazzaville 4-0 pour prendre la tête du groupe G devant la Gambie, vainqueur 1-0 du Soudan du Sud. L'Égypte victorieuse 1-0 de la Guinée partage la tête du groupe D avec le Malawi tombeur 2-1 de l'Éthiopie.
De son côté, le Gabon a surpris la République démocratique du Congo.
Privé d'une grande partie de son effectif et arrivé à Kinshasa 3 heures avant le coup d'envoi, les Gabonais se sont quand même imposés 1-0 sur le terrain des Léopards. Dans l'autre rencontre du groupe I, la Mauritanie a dominé le Soudan 3-0 à Nouakchott. On note aussi la belle victoire de l'Algérie 2-0 face à l'Ouganda. Un seul match dans la poule C et nul 1-1 entre la Namibie et le Burundi.
Certaines équipes ont disputé dimanche leur deuxième journée dans ces éliminatoires.
Dans le groupe E, le Ghana et l'Angola n'ont pas pu enchaîner une seconde victoire puisque accroché 1-1. Respectivement par la Centrafrique et Madagascar. Pareil pour la Tunisie dans la poule J, contrée au nul 0-0 par le Botswana. Pour rappel, 48 équipes reparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
Et en basketball, Golden State remet les pendules à l'heure face à Boston dans la finale NBA.
Stephen Curry, avec 29 points en 3 quarts-temps et une défense intraitable, ont permis aux Warriors de largement s'imposer 107-88 contre Boston dimanche à San Francisco. Golden State égalise ainsi à une victoire partout dans la finale NBA. Le troisième match se jouera mercredi au TD Garden dans le chaudron des Celtics, tout comme le match numéro 4.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a affirmé dimanche n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à une rébellion venue agresser son pays, tout en répétant son souhait d'entretenir des relations apaisées avec ses voisins. Quel sens donner à cette déclaration et comment expliquer la tension persistante entre ces deux pays voisins? Pour une analyse, Rosine Mounezero s'est entretenue avec le journaliste d'investigation congolais Nikes Kibelbeloka.
C'est une déclaration amère qui est faite de déception. Au regard des opportunités que le président Tshisekedi avait offertes au président Kagame sur les bonnes relations qui entraîneraient la paix. C'est aussi une déclaration d'espoir parce que il a dit que le président Tshisekedi tient encore à ce que la paix revienne dans les populations, au sein des populations à l'Est. Donc, il compte encore sur la bonne foi du président Kagame.
Quel sens donnez-vous à la déclaration du président Tshisekedi?
En fait, c'est un souci d'une paix entre les peuples du Rwanda et de la République du Congo, parce qu'il faut le dire que ces peuples partagent une histoire culturelle presque commune au niveau de l'Est. Donc c'est un appel à la paix, bien que fait avec déception, mais surtout c'est une ouverture d'esprit qui appelle le président Kagame à saisir cette opportunité pour régler ce problème une fois pour toutes.
Les deux chefs d'État semblaient bien s'entendre jusqu'à présent. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cette tension, la tension actuelle?
En fait, la région des Grands Lacs, et notamment les Kivu, le ventre mou, regorge beaucoup d'enjeux. Enjeux économiques comme enjeux sociaux, culturels. Et ces enjeux-là ne permettent pas la sincérité dans les relations. Alors, le M23, c'est pratiquement la goutte d'eau qui déborde, regarde. À tout moment depuis Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi. Ce soutien-là avéré du Rwanda, de Kigali au M23, c'est ça qui est la photo et qui est à la base de toutes ces tensions actuellement.
Il semble y avoir une forte instrumentalisation, un sentiment anti-rwandais du côté de l'opinion publique congolaise. Qu'est-ce qui alimente ce sentiment, à votre avis?
Ce sentiment est alimenté par les dégâts humains et matériels qui occasionne ces guerres récurrentes depuis plus d'une dizaine d'années, avec des déplacés, avec des réfugiés, avec toute la misère. Mais fort heureusement qu'au niveau de Kinshasa et au niveau du Nord Kivu, le gouverneur du Sud appelle la population à la retenir au calme et à éviter la chasse à l'homme, afin que les deux chefs d'État puissent trouver un modus vivendi ou qui peut ramener le calme et la paix dans la région.
Pensez-vous que la déclaration du président congolais va atténuer cette tension au sein de l'opinion publique congolaise?
Tant que la RD Congo n'a pas déclaré la guerre au Rwanda et tant que le Rwanda ne l'a pas aussi fait ouvertement, je pense qu'il y aura des tensions. On va fumer les calumets de la paix.
C'était une analyse du journaliste congolais Nikes Kibelbeloka.
Washington, la voix d'Amérique.
Au Nigeria, la chasse à l'homme se poursuit pour retrouver les auteurs de l'attaque armée qui a fait des dizaines de morts dans une église dans l'état d'Ondo. Une attaque qui alimente les craintes de la situation d'insécurité menaçant la tenue des élections générales l'année prochaine. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Au moins 21 morts, dont de nombreux enfants. C'est le bilan fourni par les autorités locales suite à l'attaque par des assaillants qui ont pris pour cible l'église catholique Saint-Francis dans l'état d'Ondo, dans le sud-ouest du pays. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque survenue dimanche matin, alors que les fidèles célébraient la messe de la Pentecôte. Youssouf Ousmane se trouvait non loin de l'église visée.
As I come here today, when I take my Ubonga high, we are not using glass.
J'étais là moi-même et j'ai tout vu de mes propres yeux. Je n'ai pas utilisé de lunettes. C'était juste terrible et je ne pourrais pas manger même si je rentre chez moi à la maison. C'est vraiment pitoyable pour nous dans cette ville, la ville natale du gouverneur Akérédolou. Il est originaire de cette ville.
Les Nigériens expriment leur indignation et colère face à l'attaque terroriste contre l'église catholique Saint Francis à Owo. Celle-ci est survenue à quelques heures de la convention du parti présidentiel qui doit choisir son candidat pour la présidentielle de 2023. Certains Nigériens pensent déjà aux défis qui attendent le prochain président.
Sans distinction d'ethnie, de religion et de tout ce que vous savez, faisons face à la réalité. Le Nigeria est dans un grand problème maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourra résoudre les problèmes du Nigeria.
Beaucoup de Nigérians sont préoccupés et inquiets. En ce moment, le Nigeria est à la croisée des chemins. Nous avons besoin d'un leader qui va unir le pays et qui va surtout nous inspirer.
Cette dernière attaque contre une église suscite une grande inquiétude dans tout le pays. Hidayat Hassan est la directrice du Centre pour la démocratie et le développement, CDD.
La réponse du gouvernement face à la crise a été jusqu'ici plus concentrée sur l'offensive par l'intervention militaire pour mettre fin à cette criminalité. Mais pour trouver une solution durable, nous avons besoin de mesures fortes et passives. Même pour le recours à la force militaire, il faut une collaboration entre les agences.
Le pays le plus peuplé d'Afrique est depuis un certain temps le théâtre d'attaques et d'enlèvements contre rançon par des gangs armés, principalement dans son nord-ouest. De telles attaques sont rares dans le sud du Nigeria. L'armée nigériane est déployée sur de nombreux points pour essayer de mettre fin à l'insécurité dans le pays. Yaouza Getso est expert en sécurité.
L'attaque est intervenue à un moment très critique. Il y a une tension politique entre trois zones géopolitiques du pays actuellement. Une tension politique surtout au sein du parti au pouvoir pour le choix de celui qui sera son candidat. Ensuite, une tension psychologique concernant les auteurs qui tuent et ceux qui mènent des activités criminelles.
Le vice-président Yemi Osinbajo est candidat pour le ticket présidentiel du parti au pouvoir, s'est rendu lundi dans la ville pour des condoléances aux familles des victimes. Il y a une semaine, le chef de l'église méthodiste du Nigeria a été enlevé avec deux autres religieux dans le sud-est du pays. Selon l'homme religieux, un montant de $240,000, soit 190 000 euros, a été payé comme rançon pour sécuriser la libération avec ses compagnons. Deux autres prêtres catholiques enlevés à Katsina, l'état d'origine du président Muhammadu Buhari, dans le nord du pays, sont toujours aux mains de leurs ravisseurs. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Au Bénin, la douane a intercepté environ 400 tonnes d'engrais et d'intrants agricoles subventionnés par l'État qui étaient sur le point d'être frauduleusement sortis du pays. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Des camions chargés d'intrants agricoles a résonné dans le nord du Bénin. Les autorités béninoises se demandent depuis combien de temps ce genre d'opération se fait et qui sont les personnes derrière cette filière qui semble bien structurée. Pour Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, c'est inacceptable que des Béninois aient pu penser mettre à mal le secteur agricole par de tels actes.
En l'espace d'un mois seulement, près de 400 tonnes d'engrais sont en instance de départ. Avant même qu'on ne fixe le prix des engrais, les gens ont déjà commencé par trafiquer à la faveur de passage de tel magasin à tel autre et des engrais sont entreposés dans les villes frontières. Nous avons sorti un communiqué pour dire que toute sortie de ces produits reste une infraction à la loi.
Dans le souci de faire face aux conséquences que pourrait avoir l'inflation actuelle sur les produits agricoles, le gouvernement avait financé et stocké les engrais intrants. Environ 54,6 milliards ont été investis comme subvention pour que le sac d'engrais revienne à 14 000 francs CFA aux agriculteurs. L'ancien député Yakubu Malerossou dénonce ces actes et appelle le gouvernement à décourager les coupables.
Et je demande à ses compatriotes d'avoir pitié de ce pays. Les engrais sont subventionnés et on amène ailleurs pour pouvoir gagner de l'argent. Je crois qu'on doit les sanctionner à la dernière rigueur pour que cela ne se renouvelle plus. C'est des gens qui n'aiment pas ce pays parce que ce que nous traversons, c'est très très difficile. Il y a la chèreté de la vie, tout le monde est en train de crier et au même moment, on veut mettre le pays à genoux. Je ne suis pas d'accord.
Pour Abdoulaye Moumouni, l'un des éléments de la douane ayant intercepté les camions d'engrais, il est important que ceux qui excellent dans ces genres de dérives sachent qu'ils risquent des peines d'emprisonnement.
Et ceux qui s'adonnent à ces genres d'opérations, non seulement les positions saisies, mais ils encourent des peines privatives de liberté allant jusqu'à 2 ans. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux populations qui ont intérêt à collaborer avec l'administration des douanes en mettant à sa disposition des informations nécessaires pour qu'on puisse identifier tous ceux qui s'apprêtent à donner à ces gens de pratiques.
Il n'y a pas que les intrants agricoles qui sont interdits de sortir du pays. En ces temps de cherté des produits de première nécessité, les produits vivriers ne peuvent sortir qu'après autorisation spéciale des structures compétentes. Dans le cas contraire, c'est une infraction lourdement puni par la loi, a indiqué Parfait Sambieni, directeur départemental de l'industrie et du commerce.
Cette décision, c'est d'éviter les sorties incontrôlées, les sorties frauduleuses. Ce n'est pas une interdiction. Il faut que l'opérateur économique qui exerce dans des produits agricoles, et il faut que ce dernier puisse disposer de sa carte de négociant de produits agricoles. Il faut que ce dernier s'acquitte de diverses quittances, notamment la TDL, taxe de développement local, et d'autres quittances. Il faut qu'il ait des reçus d'achat.
Environ 67 fraudeurs présumés ont été interpellés pour tentative de sortie d'engrais et d'intrants subventionnés. De Cotonou, Jeanette Leadondé pour VOA Afrique.
La plupart des pays dans le monde font face à l'inflation alors que leur économie ne s'est pas encore totalement remise de la pandémie de Covid-19. Ici aux États-Unis, des voix s'élèvent pour presser le président Joe Biden à s'attaquer à la hausse des prix de l'alimentation, des loyers et du carburant. Les précisions de Michel Keane, le récit est de Jacques Aristide.
L'Amérique se voit confrontée à deux dures réalités économiques qui se produisent en même temps au moment où le pays continue de se remettre de la pandémie de coronavirus. Les Américains parviennent à trouver du travail et les salaires sont en hausse, mais les prix augmentent depuis l'année dernière, dont celui de l'essence. La crainte provoquée par l'inflation est un problème pour le président Joe Biden, qui doit affronter les élections de mi-mandat cette année. Un nouveau sondage ABC News Ipsos, publié dimanche, montre que seulement 28% des électeurs approuvent la gestion de l'inflation par l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à laisser la Réserve fédérale, qui a resserré sa politique monétaire ces derniers mois, faire son travail. Il entend prendre de nouvelles mesures pour faire baisser les coûts de l'énergie et du logement. Les experts sont d'avis que l'administration Biden doit ralentir l'inflation, mais pas au point de précipiter l'économie dans une récession. Pete Buttigieg, le secrétaire américain aux transports, a assuré que la croissance économique resterait forte. Il s'exprimait dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Ce que nous faisons, c'est nous préparer pour la voie à suivre où vous ne verrez pas ce genre de croissance économique rapide, fulgurante, follement rapide que nous avons eu au cours de la dernière année, mais nous nous attendons toujours à une forte croissance économique et nous travaillons pour qu'il en soit ainsi.
Le prix de l'essence est particulièrement préoccupant. Alors que les prix ont augmenté au cours de l'année écoulée, ils ont bondi au déclenchement de la guerre en Ukraine, la production russe ayant chuté en raison des sanctions occidentales. Pour les républicains, le président Biden n'a pas de plan pour juguler l'inflation. Rick Scott, sénateur républicain de Floride, l'a dit sur Fox News.
Biden est un gosse de riche. Il n'a aucune idée de la façon de gérer l'inflation. Il n'a aucun plan pour gérer l'inflation. Tout ce qu'il fait est de blâmer tout le monde, y compris Poutine, pour son inflation.
La semaine dernière, l'administration Biden a salué comme une percée diplomatique la décision du groupe des pays producteurs de pétrole d'augmenter l'approvisionnement en pétrole brut au cours des 2 prochains mois.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Lionel Gaïma. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.